Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Cet après-midi, mardi, bonjour. Oui, ça passe pas le micro, c'est pas bon. Un peu plus haut, comme ça. Ça te va? Là, c'est bon comme ça. Là. Là. C'est bien comme ça. C'est bon. Voilà. On va ranger. Donc, on fait cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires du mardi après-midi sur l'actualité internationale avec Erika, que je remercie, et toujours ma cousine Sandrine qui est là, à mes côtés. Elle, à nos interventions dont on discute, je vous rappelle, la préparation se fait sur les bonnes des sujets. Ah, faut que je... ah, carrément, ouh, je vais l'avaler. C'est comme les pivots. Hop, voilà. Donc, pour parler de l'actualité internationale, j'avais commencé par Haïti. Ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de vous parler d'Haïti. C'était pour parler d'abord de la situation politique. Et puis, il s'est ajouté, parce que décidément, ce pauvre pays accumule des misères. Donc, un tremblement de terre, suivi lui-même de 48 heures après ou 3 jours après une tempête, qui a fait que la zone a été doublement ravagée par le tremblement de terre et par la tempête. Une zone qui n'est pas en pleine ville, enfin c'est pas à Port-au-Prince, c'est une ville un peu à l'écart, mais ça a été l'occasion d'une part de faire un bilan qui n'est pas très élevé par rapport au séisme précédent, donc il y avait 200 000 morts par rapport au précédent. Là, on est, les chiffres publiés sont d'un tout autre ordre de grandeur, puisqu'on est autour de 2 000 personnes, 6 000 blessés, pas plus. Ce que je voulais indiquer sur ces catastrophes naturelles, c'est qu'une catastrophe est naturelle, effectivement, on ne décide pas, il n'y a personne, il n'y a pas un gouvernement méchant depuis un bunker qui déclenche les tremblements de terre. Mais que la réponse d'une autorité politique, d'un gouvernement à une catastrophe naturelle peut aller du jour, c'est le jour et la nuit, ça peut aller très bien ou très très mal, ou ne pas avoir de réponse du tout. Alors, je comparais, ben c'est très facile, c'est les mêmes tremblements de terre et c'est les mêmes typhons qu'il y a juste à quelques dizaines de kilomètres plus à l'ouest à Cuba. Le même phénomène naturel avec la même intensité, la même violence, fait beaucoup moins de morts s'il en fait à Cuba qu'il en fera ici. Parce que c'est un gouvernement qui prend en charge, qui prévient, qui a pris des dispositions à l'avance de sécurisation du personnel, des personnes, des habitations, des réseaux, etc. Bon. Dans le cas d'Haïti, on est sur une espèce de no man's land politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'argent, ou il n'y a pas d'argent au moins pour faire ça, parce que l'argent s'égare dans les méandres bizarres. Et donc, effectivement, toute catastrophe naturelle prend immédiatement des proportions dramatiques. Quand elle vient s'ajouter à une population qui est déjà en mal sur une série de soins, qui a perdu pour une bonne part, il y a des dizaines de milliers de logements qui ont été détruits par le précédent tremblement de terre qui n'ont pas été reconstruits. Donc, une population qui est dans la rue ou sous une vague toile de tente, qui subit d'une part un tremblement de terre qui est en force 7, donc c'est très fort, qui, 2-3 jours après, subit une tempête qui est rincée par la pluie, elle est beaucoup moins défendue qu'une population qui est à l'abri dans une maison avec des dispositions de sécurité et des forces de sécurité qui sont là pour aider. Donc, on a des citoyens livrés à eux-mêmes face à une nature déchaînée. Et cette nature déchaînée, quand elle est prise comme telle, c'est-à-dire qu'on la connaît, qu'on la maîtrise, on arrive à éviter la plus grosse partie des pertes humaines. Ce n'est pas le cas ici. C'est ça qu'il faut dire. Toute catastrophe naturelle se termine forcément mal. parce que il n'y a rien. Rien. Oui. Oui, alors en plus, voilà, c'était venu dans un contexte politique qui n'était pas très favorable. La présidence avait été reprise par le bras droit désigné, non pas par les électeurs, parce qu'on leur a même pas demandé, mais désigné par, je dis même plus, la communauté internationale. En fait, il y a deux personnes, qui sont deux dames en l'occurrence, aucune intention mauvaise de ma part, qui est l'ambassadrice des États-Unis et la responsable du programme de USAID, qui est une autre américaine, et qui sont là pour faire marcher la machine. Et puis, elles ont un groupe de soutien, elles ont, on dirait en italien, comme les supporters de l'équipe de foot, des tifosi, qui sont les ambassadeurs de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, et d'Italie, je crois, du Canada. C'est ça, le gouvernement d'Haïti, c'est donc ces deux citoyennes américaines et ces cinq ambassadeurs. La population peut mourir dans la rue, être noyée par les inondations, être détruite ou ensevelie par les sauveteurs. Ça n'a pas beaucoup d'importance, car ces messieurs-là sont dans le business, tous autant les uns que les autres. Alors je ne dis pas que le titulaire d'un poste d'ambassadeur d'un des pays que je viens de citer se remplit lui-même les poches. Mais il sait très bien que l'aide internationale, parce qu'il va y avoir effectivement, après le tremblement de terre, celui-ci comme le précédent, des aides internationales qui vont être demandées et qui vont partir d'un lieu d'émission. Ces aides internationales, elles sont chiffrées à un endroit où on collecte l'argent, où on collecte les médicaments. Le problème, c'est la maîtrise du transport jusqu'au destinataire final. Le destinataire final, c'est le citoyen, la citoyenne haïtienne et leurs enfants. C'est personne d'autre. Or, il se trouve que là, on a une espèce de phénomène bizarre, que les tuyaux sont tous percés et que rien n'arrive au bout, presque rien. Alors, par contre, ce qui arrive dans les rues, ce sont de superbes 4x4, des SUV en blanc, avec des grosses roues, des verres fumés et tout, qui circulent au milieu de la misère en disant « Nous sommes l'aide ». Et en fait, chacun de ces véhicules est un crachat, c'est une humiliation du peuple haïtien. C'est ça que ça veut dire. Et ils le prennent comme ça. Puisqu'il y a même eu des campagnes contre la présence des militaires envoyés par l'ONU, disant « Mais vous êtes du côté des gouvernants, vous n'êtes pas là pour nous aider, vous profitez de la situation. » J'ai même vu le récit d'un citoyen qui était impliqué. Alors, il y a dans les ONG, bien sûr, de braves gens honnêtes qui vont dire « Je vais essayer d'aider. » Et puis, j'ai eu un témoignage d'un d'entre eux qui était allé pour le précédent tremblement de terre dans une de ses associations, dire « je vais aider ». Et il a découvert qu'effectivement, son association, son ONG, donc, était basée dans un club de vacances, qui était à l'extérieur de la zone touchée par le tremblement de terre, club de vacances avec des plages de rêve, enfin, une carte postale comme vous les imaginez, hein, les services partout, la climatisation et tout. Et il disait, je me demandais au bout d'un moment, ça servait ce que je faisais. Parce que nous, on était là comme en vacances. Bon, le matin, on allait au boulot, on allait distribuer une petite chose là. Et puis le soir, c'était la fête, c'était la boîte de nuit, plutôt entre blancs, d'ailleurs, il n'y avait pas trop de citoyens. Et au bout d'un moment, il dit, j'étais mal à l'aise, j'étais pas bien parce que j'étais du côté du manche et des autres, finalement, je leur faisais croire que je m'intéressais à eux et c'était pas vrai. C'est ça aussi le contexte politique, puisqu'il s'agit bien de politique, de l'absence d'un gouvernement qui ait la confiance de son peuple. Et la confiance d'un peuple, ça s'acquiert en s'intéressant au peuple. C'est tout. Le peuple, il fait vite la différence entre celui qui profite pour ses intérêts propres et celui qui essaye de faire avancer les affaires pour la population. Manifestement, les équipes mises en place, que ce soit celle de M. Martelly avant M. Jovenel Moïse, et puis le nouveau M. Henry, c'est le même parti politique, il a été coopté par ces dames, et donc c'est exactement. Donc la population n'attend plus rien d'eux. Le problème, on va dire, mais est-ce qu'un jour les Haïtiens vont se révolter? Moi, c'est la question que j'ai toujours en tête quand je suis face à la situation. Et après, moi, je reviens sur l'histoire, je relis. Mais ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés d'une façon victorieuse. Je rappelle que les Haïtiens ont aboli l'esclavage. Le seul pays noir qui a abandonné l'esclavage dans les années 2000. Et on leur a fait payer un prix extraordinairement cher pour avoir commis cet acte anti-blanc. C'était un acte anti-blanc de révolte victorieuse. sa l'ouverture l'a payé, lui, parce qu'il est mort en prison, française, dans le Jura, et puis son successeur de Saline, qui a mené la guerre et qui a gagné la guerre. Et tous les gouvernements successifs, c'est-à-dire que la France a exigé des dédommagements, parce que ses propriétaires planteurs avaient subi effectivement des dommages. D'abord, ils ne pouvaient plus exploiter les plantations avaient pour arrêter la vie par les combats. Et donc pendant 50 ans, les Haïtiens ont payé, envoyé de l'argent à la métropole. C'est ça. Bon. Après, la France est partie, les États-Unis sont venus. Ils ont fait pareil une autre fois. C'est-à-dire que ce pays est rançonné par le pouvoir impérialiste blanc depuis qu'il est devenu indépendant. C'est ça la réalité. Et donc, là au milieu de tout ça, bon, une inondation, un tremblement de terre, ça devient presque anecdotique. C'est triste de le dire comme ça. Les pauvres, il leur arrive encore une tuile. Comment vont-ils s'en sortir ? On ne sait pas, parce que tout est fait pour qu'ils ne s'en sortent pas. Et ce qui est démonstratif de la façon dont on les considère, c'est qu'après le précédent tremblement de terre, donc, il y a eu un fonds qui a été chargé de collecter de l'argent qu'on avait, et ce fonds a été géré par deux citoyens américains au-dessus de tout soupçon. Alors je mets d'énormes guillemets, ça, qui s'appelait l'un Bill Clinton et l'autre George W. Bush. Ils ont fait une fondation commune, ils s'étaient trouvés d'accord, républicains ou démocrates, on n'avait pas beaucoup d'importance, ils collectaient l'argent pour Haïti. Et M. Clinton faisait transporter l'argent par madame. Si elle perdait son sac en route, c'était tristesse, un événement fortuit, une erreur d'écuyage, c'était tout ça. Voilà la situation d'Haïti qui est triste à pleurer. J'ai toujours envie d'en parler, en fait, c'est toujours le même refrain, disant à quel moment il y aura un déclic, un équilibre international qui fera que les Haïtiens qui sont conscients de ça, il y en a qui restent, alors il y en a beaucoup qui ne supportent plus et qui vont vivre qui au Canada. Mais beaucoup voudraient revenir chez eux, ils ont un pays qui prospère, où tout pousse, il y a une possibilité d'une agriculture autonome, équilibrée, etc. Et il y a des gens qui ne veulent pas, parce que ces gens-là veulent garder la surface pour justement les singes de la France. Il faut voir qu'il y a des plages sur certaines zones d'Haïti qui sont entourées de fils de fer barbelés parce que les bateaux de croisière vont jeter l'ancre au large de la plage. On débarque les croisiéristes le temps du bain de soleil et du bain de mer, et les Haïtiens sont de l'autre côté des barbelés, sauf les serveurs de café et ceux qui distribuent les glaces et les sodas. C'est ça la réalité d'Haïti qu'on ne peut pas voir. Non. On va nous faire pleurer, je ne peux pas, mais je peux plus pleurer. Je peux que m'énerver quand je parle d'Haïti. Tellement c'est insupportable. Vous allez voir que ce n'est pas le seul endroit du monde. Étant dit, je vais devoir vous parler beaucoup de l'Afghanistan, parce que dans les circonstances assez particulières que l'Afghanistan traverse, chaque jour apporte sa pluie d'informations avec des tas de confirmations, des positions des uns et des autres, des clarifications sur un certain nombre de choses. Et deux mots quand même pour parler de la situation en Syrie, puisqu'il s'avance, comme je le fais très régulièrement, comme elle le fait d'habitude, puisqu'on ne peut pas parler d'autre chose que d'habitude, l'aviation israélienne est encore venue bombarder ces derniers jours en Syrie. Alors, la seule chose agréable, c'est qu'on sait que quand les F-16, les États-Unis viennent tirer des missiles sur une zone de la Syrie, en général maintenant, les défenses antiaériennes syriennes, mises au point des flottes russes, permettent d'en abattre la grande majorité. C'est-à-dire qu'on sait que sur les 26 derniers missiles qui ont été tirés sur la ville de Nira, il n'y en a que deux qui sont arrivés à terre. Qui a été intercepté par la défense anti-aviation. Mais ça continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi internationale. Ça se fait, bien entendu, par violation de l'espace aérien libanais. Regardez la carte, Israël traverse l'espace aérien libanais. Israël fait comme si l'État d'Israël n'existait pas. C'est tout. C'est ça la réalité. Ils sont chez eux, dans le ciel libanais, ils passent comme s'ils veulent, ils bombardent tout. Ceux qui ont décidé de marcher en Syrie. Alors, ils ont quand même des difficultés parce que maintenant, il y a une défense antérieure qui fait de l'effet. Pas suffisamment à mon avis. Et je vous reparlerai aussi de la Tunisie, mais j'en reparlerai en incluant la Tunisie dans le cadre de la crise afghane et vous allez vous demander pourquoi. Et vous verrez qu'il y a un rapport. Alors la crise afghane, depuis donc 8 jours qu'on ne s'est pas exprimé sur cette antenne, elle a pris donc un développement particulier. Alors ce que vous voyez, en gros je résume, je ne passe pas 2 heures devant les institutions officielles, mais c'est effectivement des problèmes du rapatriement de ceux qui veulent quitter l'Afghanistan. On a bien compris que ceux qui veulent quitter l'Afghanistan, ça a été en priorité d'abord les diplomates de puissance étrangère, de puissance de l'OTAN, à commencer bien entendu par les diplomates des États-Unis, et puis d'autres, donc des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, les Français aussi, les Italiens, etc. Ça, c'est à peu près fait. Et puis après, il y a toute cette masse de gens qui ne sont pas bien décrits, qui ne sont pas bien catégorisés, qui ont envie de partir. Pourquoi ils veulent partir? Alors il y a d'abord toute une catégorie sur laquelle on a commencé à avoir des chiffres, c'est ce qu'on appelle des mercenaires, moi j'appelle des contractuels, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans les armées de l'OTAN, mais qui ajoutent un certain nombre d'activités, qui complètent l'activité militaire, par des transports, par des enfin toute une série de choses, concernant la logistique militaire. Quelquefois, ils interviennent dans des programmes, car il y a eu des programmes de développement de l'Afghanistan qui n'ont pas abouti beaucoup, mais il y avait de l'argent qui venait du fonds monétaire, des donateurs, du fonds monétaire, etc. Et on faisait, on avait décidé de construire un pont, il n'y avait pas de pont. Ça, c'est, ça a été confirmé par beaucoup de témoins, c'est que le pont était construit du fonds monétaire, le pont était construit par une société. Mais donc c'était ça. Alors, le mot mercenaire est un peu méchant. Bien sûr, on envoie construire un pont sur une rivière afghane. C'est un mercenaire, si on veut. Il fait partie d'une opération impérialiste, mais en tant que tel, je ne sais pas s'il se sent mercenaire. Il vient faire son ouvrier, il a un contrat, il fait son pont. Ça, c'est ce qui est confirmé par de nombreux témoignages, c'est que les talibans qui étaient partout, à peu près, regardaient le pont se construire, et puis une fois que tout le monde était parti, ils le faisaient sauter. Et donc ça pouvait durer comme ça 50 ans. Alors tous ces gens-là, tous ces mercenaires contractuels et tout, il faut qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils s'en aillent parce qu'il y aura tout ce genre de chantier, puis on va se moucher d'eux. Et puis, il y a au milieu d'eux des gens qui veulent aussi un peu de renseignement. Et donc, le tri est très très difficile à faire. Et pour un Afghan, qu'il soit taliban ou pas, mais qui respecte son pays, ils étaient là au mauvais moment où on avait l'armée de l'État. On rappelle que l'armée de l'État a fait au bas mot 100 000 personnes. Qu'elle s'est permis même de tirer sur des hôpitaux, dans lesquels il y avait même des soldats étrangers, elle s'est permis de tirer sur des mariages. Hein. Donc, le souvenir qu'il reste dans la population n'est pas excellent. Et donc, il y a tout ce flottement en disant qui s'en va, qui s'en va, qui est qui, etc. Et puis, il y a la crainte qui a été exprimée par d'autres en disant ceux qui s'en vont, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Alors, ils sont donnés par un certain nombre de choses. Ils étaient dans l'opposition aux talibans, peut-être. Alors, parmi ceux-là, il faut d'abord s'arrêter sur le cas des 300 000 membres de l'armée mise en place par les États-Unis. Oui, ça fait beaucoup. On considère que par rapport à l'effectif armé des talibans, c'est 3 fois plus. Il y avait 300 000 personnes équipées, théoriquement entraînées. Alors là aussi, l'entraînement pouvait être fait par des soldats, ou pouvait être fait par des professionnels de la formation, ou le monsieur qui vend tel ou tel type de pistolet, il envoie un technicien, comment ça marche, il y a besoin d'envoyer un militaire sous l'uniforme. Il y a tous ces personnels-là qui gravitent autour de la force militaire. Ces 300 000 personnes, elles ont disparu en fumée. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de combat. On savait dans les semaines précédentes qu'il y en avait qui avaient passé la frontière, en particulier la frontière avec le Tadjikistan, c'est facile à passer, et donc ils sont au Tadjikistan. Ils y font quoi? On a dû les mettre dans des camps, je reviendrai sur la situation du Tadjikistan. Ils ont dû, alors qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs armes? Ils étaient donc, je rappelle, 300 000 hommes bien armés. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont gardé, il faut savoir que c'est un pays, vu son passé historique et vu tout ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est un pays où chacun doit se dire, bon, aujourd'hui je fais comme si je n'étais pas armé, mais après tout, si je vais faire un trou et que je cache mon pistolet, mon travail, mon cachette, ça pourrait peut-être servir à un autre moment de la situation qui est instable. Donc, il y a potentiellement 300 000 armes qui sont dans la nature. parce que j'imagine que au passage de la frontière du Tadjikistan, les gardes frontières sont venus, leur disaient du passage, vous posez vos armes. Homme de sécurité pour l'état de Tadjik. Et donc ces armes sont là dans la campagne, chacun l'a pu les ramasser, je pense pas qu'on est doté dans les cuves. Et donc il y a là un gisement énorme de futures violences. Ça, c'est des données qu'il faut avoir en considération. Il y a aussi, et c'est la crainte qui a été exprimée par le président russe à Nanterre, à l'issue de sa rencontre avec Angela Merkel, vous savez qu'Angela vient de faire la bise, parce qu'elle va quitter son poste, et donc c'est la dernière visite qu'elle peut faire, elle va donc à Moscou la semaine dernière. Donc à l'issue de leur rencontre, ils ont parlé évidemment de l'Allemagne, elle était dans l'OTAN, donc elle avait des trucs, elle a participé au financement des opérations, etc. Ils ont parlé, et ce qu'a dit Poutine dans son parti, c'est de dire, on sait qu'il va arriver des Afghans, le problème c'est que quand il arrive un Afghan, on ne sait pas trop. Et est-ce qu'il a été dans les 300 000 de l'armée des États-Unis? Est-ce que c'est un taliban qui a acheté son arme parce qu'il en avait marre? Est-ce que c'est un membre d'une autre, d'un groupe de milices armées qui s'est caché parce qu'il est dans les États-Unis? L'incertitude est totale sur qui est qui. Et je peux vous dire par exemple que l'OFPRA, donc, vous savez, l'organisme français qui s'occupe de l'accueil des demandes d'asile pour les citoyens, les personnes qui s'occupent de l'accueil des citoyens afghans, ils ont toute une série de précautions à prendre pour dire, voilà, les récits qu'on nous fait, c'est un peu comme ça, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut rejeter, comme ça, une vérité. On sait qu'ils circulent dans les milieux. Alors, c'est triste à dire parce que c'est des recettes pour tricher avec la misère du monde. C'est ça. Des récits qui permettent de. Ça se sait dans les milieux de ce qu'on dit ça. Des récits qui permettent de d'émouvoir le froid, d'émouvoir les services de police, que ce soit en France ou ailleurs, pour dire, ah, lui ou elle, ils ont vraiment souffert, on va les accueillir. C'est pas trop, on ne sait jamais exactement. S'augmenter les difficultés de la langue. Et ça m'amène à la question des interprètes. C'est une question qui se met ici et qui est importante. Parce que l'interprète, alors, peut être deux choses. Vous pouvez être interprète dans une conférence internationale. Et là, vous avez un statut tranquille. C'est un métier assez difficile, mais c'est passionnant. Et puis, vous pouvez être interprète sur le terrain. Alors, vous imaginez que les troupes allemandes, françaises ou italiennes qui étaient en Afghanistan, il n'y avait pas un seul soldat ni un seul officier qui parlait une des langues utilisées au Afghanistan. Donc ils recrutaient des interprètes. Ces interprètes pouvaient être à la fois des agents des talibans qui leur disaient exactement le contraire de ce qui était la vérité, ou bien des gens sincères qui disaient ce qu'ils savaient. Et quand ils disaient ce qu'ils savaient, ils pouvaient dire, quand l'officier américain ou français lui disait « Et les talibans, ils sont où ?» Si le type disait « Ils sont là-bas », ça se savait. Et donc, aussi bien, le lendemain, il était mort. Donc, c'est des métiers extrêmement dangereux quand on est interprète sur le terrain. Et dans des endroits comme ça. Et qu'on ne sait pas si, effectivement, il y a des talibans, ou si c'est vraiment des talibans, ou si c'est un autre scénario de guerre, ou si c'est encore un autre dissident. Donc, danger absolu pour l'interprète de terrain. On distingue de l'interprète de conférence internationale. Enfin, toute une série de questions qui se posent sur ces personnes qu'on nous montre. J'ai insisté sur la question des mercenaires des contractuels parce que, oui, voilà, une reprise, Yamine qui vient nous rejoindre dans la technique. Bonjour Yamine, merci d'être venu aussi. Donc, ces personnels-là, on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas trop qui ils sont, s'ils sont mal définis, on ne sait pas qui était leur employé. Alors, parce que, mais ça, sous le terme mercenaire, comme si c'était le Pentagone ou l'armée du pays qui payait tout le monde. C'est pas vrai. Il y a tous des systèmes de sous-traitance extrêmement compliqués qui font que chacun est payé par quelqu'un parce qu'il n'est pas venu pour rien. Mais, voilà, c'est des sociétés privées et qui peuvent elles-mêmes sous-traiter. Alors, il y a des gens qui sont chargés, par exemple, d'un transport de marchandises, mais qui sous-traitent le transport avec quelqu'un qui a un camion, et lequel camionneur, il prend un interprète et des gardes du corps. Et tout ça fait que la situation est extrêmement trouble. On ne sait jamais aussi. Alors, cette situation trouble, qui explose sous les yeux, fait forcément des victimes. les gens impuissants, enfin, sans beaucoup de pouvoir, en souffrent parce que les autres s'en ont compris. Et il a bien été confirmé que le président mis en place par les États-Unis, M. Ghani, était parti effectivement avec deux voitures pleines de dollars. Donc la somme est connue maintenant, c'est 160 millions de dollars qu'il a pris donc, en liquide directement. Il a essayé d'atterrir au Tadjikistan, mais là on le connaissait un peu, puis le Tadjikistan, je l'expliquerai tout à l'heure, est dans un envoyé, et donc M. Ghani est accueilli à Dubaï. Là, effectivement, il pourra déverser autant de dollars qu'il veut pour s'acheter une suite dans les plus hauts étages d'une des tours de Dubaï. Tout va bien pour M. Ghani. Le gag, parce qu'il y a de l'ironie dans l'histoire, c'est que M. Ghani a publié un livre qui n'a pas encore été traduit en français, qui s'appelle « Comment reconstruire un État failli ». Ça, c'est délicieux. Ça n'a pas marché, mais au moins il a théorisé comment on reconstruit un État failli. Effectivement, vous proposez à des gouvernements de dire, vous allez bien, vous savez reconstruire un État failli, et qu'à la sortie, vous partez avec 160 millions de dollars, ça vaut le coup de faire croire que vous êtes capable de redresser un État failli. Après, vous êtes heureux à Dubaï, dans votre suite, vue sur la mer, tout va bien. Voilà, tout ça, tout cet argent, donc les 3 000, enfin les 1 000, les chiffres sont dans les choses officielles, mais tout ça n'a pas profité à beaucoup. C'est pas arrivé, bien entendu, à la base, à profiter à beaucoup. Les comptes ne sont pas faits. Et ce sur quoi je vous demande un peu plus, c'est de faire le tour de ce qui se passe, ce pays étonnant. Parce que l'Afghanistan n'est pas au cœur de l'actualité mondiale que depuis le dimanche 15 août. L'Afghanistan est au cœur de l'actualité mondiale depuis pratiquement 2 siècles. Pourquoi ? Parce que l'endroit où est l'Afghanistan fait que, de toute façon, tous les conflits internationaux dans cette zone-là du monde ont une incidence sur l'Afghanistan, et inversement, tout ce qui se passe en Afghanistan a une incidence sur la vie des pays voisins. Ce pays, c'est un espèce de donjon au milieu du continent eurasiatique qui a des ouvertures. Alors, je fais rapidement avec vous le tour pour vous le rappeler, hein, sur la géographie devant vous. À l'est, donc, une frontière longue avec le Pakistan. Au nord, une toute petite frontière avec la Chine. Au nord, derrière, la frontière avec le Tadjikistan. Après, on continue vers l'ouest, on arrive à la frontière avec l'Ouzbékistan. On a un bout de frontière un peu plus loin avec le Turkménistan. On redescend avec une frontière sur l'Iran. Et quand j'ai dit Pakistan, je n'ai pas dit, mais c'est la vérité, c'est que l'Inde est tellement près, parce que le Pakistan, à cet endroit, est très étroit. Donc il y a des influences indiennes non négligeables qui ont lieu dans la vie historique de l'Afghanistan. Tout ça fait beaucoup d'interlocuteurs. Alors la Russie n'est pas là, mais d'une certaine façon, elle était là du temps du RSS à travers la République d'Asie centrale, donc Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, mais elle est encore là pour toute une série de raisons. D'abord parce qu'elle a des bases militaires dans un certain nombre de ces pays, en Afghanistan, en Tadjikistan, et parce que la Russie est à la tête de ce qu'on appelle le traité de sécurité collective, de sécurité militaire, dans lequel sont inclus, je parle de l'ouest à l'est, donc le Bélarus, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Et donc la Russie a un allié qui a une frontière commune avec l'Afghanistan. Donc elle a un traité d'alliance militaire. Donc elle ne va pas laisser faire n'importe quoi à la frontière de ce pays qui est un pays ami, qui est un petit pays sans beaucoup de moyens. Le Tadjikistan était une des républiques et reste une des républiques d'Asie centrale ex-soviétique parmi les moins riches. Le Kazakhstan étant dans l'autre, surtout dans l'autre camp, aussi des pays riches avec une grande taille et beaucoup de ressources. Le Pakistan. Le Pakistan, alors cas très particulier, le Pakistan qui a été assez longtemps une créature des services de renseignement des États-Unis, au point qu'ils y avaient même imposé des chefs d'État. Le Pakistan, depuis l'arrivée à la tête du pays de M. Imran Khan, a pris ses distances. C'est-à-dire d'abord le Pakistan a grandi, j'allais dire, dans sa tête. Il est à une maturité politique après une histoire assez chahutée. Je rappelle par exemple que Mme Benazir Bhutto a été assassinée par des djihadistes. Donc c'est un rapport compliqué avec une certaine forme d'islam. Mais le Pakistan a pris ses distances, et là, sur la question de l'arrivée des talibans, le Pakistan est tout à fait clair par la voix de l'ensemble de l'ONU, il s'est dit, ils font leurs affaires chez eux, ils gouvernent, ils s'arrangent entre eux, temps, mais ce n'est pas chez nous que les problèmes vont se régler. Et nous, on va surveiller notre frontière très, très sérieusement. Même discours que Poutine tient à sa façon. Parce qu'on ne veut pas que, s'ils ont des tensions internes, il peut y en avoir. Alors, on va ces jours-ci, vous allez entendre, on va vous reparler du fils du fameux commandant Massoud. Et on va nous resservir encore une fois l'incroyable Bernard-Henri Lévy. Alors moi, quand je vois arriver Bernard-Henri Lévy sur l'écran de télévision, je me dis combien de morts il va engendrer avec ses discours. Il va dire un tel a tort, un tel a raison, tirer dans le tas. Bon. Je remercie. Je suis d'une ingratitude totale par rapport à M. Bernard-Henri Lévy sur sa position sur le conflit libyen. Je pense qu'aujourd'hui, chaque fois que vous regardez un navire qui sombre dans la Méditerranée, un navire de migrants, ayez une pensée agressive et méchante et vengeresse contre M. Bernard-Henri Lévy. Il a été un des acteurs principaux de l'assassinat de Kadhafi et de la disparition du gouvernement. Et donc, ce qu'on a depuis, c'est rien du tout. C'est un état sauvage. Bon, passons sur... Donc, on ressort, alors, le commandant Massoud ayant été assassiné. Alors, le commandant Massoud, je reviens, alors, on l'a héroïfié ici, en France et dans d'autres pays d'Occident. C'était un des seigneurs de guerre parmi d'autres. Rien de plus. Alors, effectivement, il a été éliminé par d'autres seigneurs de guerre qui ne voulaient plus, parce qu'ils n'avaient pas la place. Mais vous le savez, 48 heures avant... les attentats du 11 septembre. Mais c'était tout. Il était en concurrence et il ne voulait pas participer au pouvoir, mais il en est mort. D'autres ont résisté. Donc Massoud, c'était pas plus que ça, un seigneur de guerre. Donc porteur d'un autre islam à lui, mais surtout de son propre pouvoir. Donc on ressort son fils en disant « Ah, le fils est là, vous allez voir, ça va en coûter cher aux talibans. » On n'en sait rien. De qui, monsieur Massoud, fils, va-t-il recevoir ses armes? Alors il en avait pas en réserve. Où est-ce qu'il a été? Où est-ce qu'il a vécu? Puisqu'il n'était pas en odeur de sainteté chez les talibans, il devait être caché quelque part. Il avait probablement de l'argent. On nous le ressort comme de celui qui va redresser la situation et sauver les femmes afghanes. Alors ne rions pas. Monsieur Masson, numéro 2, est un seigneur, le fils d'un seigneur de guerre, qui n'a que des ambitions personnelles, rien de plus, et qui peut servir dans des jeux compliqués entre puissances externes. Passons là-dessus. Passons là-dessus. Alors, ça, les gens, le gouvernement pakistanais, qui sait tout ce qui se passe à cette frontière et qui veut effectivement que ça se passe chez lui, il a 200 millions d'habitants. Il a, en plus, l'inconvénient vis-à-vis des États-Unis, le Pakistan, avoir des accords économiques très, très étroits avec la République. Donc, a priori, le Pakistan, qui était un allié fidèle et dont l'armée des services secrets est aux mains, ne l'est plus. C'est ça qui est nouveau. Il y a toute une série d'intérêts communs et les aides au développement du Pakistan qui sont données par la Chine, enfin, qui sont des chèques, c'est des autoroutes, c'est des barrages, c'est des chemins de fer, c'est tout ça qui se passe. C'est un port sur la... Donc tout ça fait qu'il y a des liens très très différents entre la Chine et le Pakistan qui peuvent avoir, même au moment où c'était renversé. Donc c'est pour ça la position du Pakistan est très claire. En tant que puissance, alliée à la Chine, ayant des intérêts, ayant un projet de développement qui est en commun avec le Pakistan, et donc on n'a pas envie que les Asiatiques se fassent, et donc il est compliqué à surveiller, mais il sait le faire. Continuons le tour. Le Tadjikistan, j'en ai dit deux mots, donc la plus petite et sans doute la plus pauvre des républiques centrales ex-soviétiques, fait partie donc du traité de sécurité collective, à l'inverse de ses voisins, donc l'Ouzbékistan et le Turkménistan, et donc à ce titre, a signé une alliance militaire avec la Russie, c'est là pour le défendre. Et donc le Tadjikistan ne fera rien qui le déstabilise, il apportera tout ce qui est nécessaire pour éviter qu'il soit déstabilisé par des gens qui se font de bonnes intentions. Les deux autres, alors l'Ouzbékistan et le Turkménistan, frontière commune. L'Ouzbékistan est une frontière qui est largement utilisée, c'est une des frontières les plus utilisées pour les marchandises, parce qu'encore, il y a quand même une vie économique aussi pauvre soit-elle en Afghanistan. Donc là, la frontière avec l'Ouzbékistan est ouverte. Elle sert aussi à faire arriver l'acide sulfurique qui sert à transformer l'opium en héroïne. Ça, on sait. Et donc ça marche. Mais le gouvernement ouzbek, tout en n'étant pas membre de l'organisation du traité de sécurité collective, est assez prudent. Et on sait, par exemple, qu'il a poussé dehors ou qu'il a fait le désarmement aux gens qui arrivent dans l'Afghanistan avec des armes à la main. On voit bien, mais vous ne pouvez pas vos armes les deux. Donc il est assez ferme là-dessus. Il n'y a pas de souci de ce côté. Après, on a le Turkménistan, donc il n'y a pas beaucoup d'intervention. Et puis, de l'autre côté, on a l'Iran. On arrête un peu là-dessus, parce que pour l'Iran, l'existence d'abord du régime taliban de 96 à 2000, et puis même avant, les républiques soviétiques ou socialistes, celles de Najibullah et celles d'Azerbaïdjan, ça existait comme un voisin. Un voisin avec lequel, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a une bonne partie d'Afghans qui parlent une langue qui ressemble à l'Iranien qu'on appelle le Dari. Donc il y a plus que des affinités, il y a un voisinage historique réel. Et donc l'Iran sait très bien tout ce qui se passe de l'autre côté de sa frontière, qui est très longue, et la surveille comme le lait sur le feu. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'une part des rapports entre la République afghane, nouveau point voir les États-Unis et l'Iran, la République afghane de M. Ghani, ou de M. Karzai avant, ne pouvait être qu'hostile à l'Iran, puisque les États-Unis étaient hostiles à l'Iran. Maintenant, on peut effectivement avoir le doute, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le nouveau pouvoir taliban va avoir une attitude différente ? Alors, c'est possible, mais l'Iran a bien fait savoir qu'il ne voulait pas non plus qu'on vienne mettre des bombes dans ses lits, que les choses soient mieux faites. Et il s'y ajoute à ça quand même une différence qui est centrale, même si elle tend à se tromper un peu, et je vais revenir sur cette question, c'est que le pouvoir religieux iranien est aussi, alors que les talibans sont des sunnites. Donc là, il y a quelque part une ligne de séparation qui n'est pas négligeable et qui, dans l'histoire, pèse lourd. Voilà tout cet ensemble. Bien les situer les uns et les autres, avec donc beaucoup de messages. Je fais la synthèse du côté de la Chine. Alors, je ne vais pas parler de la Chine, mais c'est beaucoup plus frontière, mais l'influence économique de la Chine au Pakistan d'abord, au Tadjikistan, c'est vrai aussi, mais d'ores et déjà en Afghanistan, bon, on l'a pas connu, mais il y a déjà des mines chinoises. Et donc la Chine, et elle ne veut pas que les relations économiques qu'on veut entretenir avec un gouvernement afghan, tel qu'il soit, débouche sur des allées-venues de personnes ayant déposé leurs armes mais ne les ont pas déposées. Donc la Chine a été très très claire. Elle a même dit à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les talibans sont en train de là, ils organisent leur pays, nous les laissons faire, mais nous posons un certain nombre de conditions. Nous ne voulons pas que ce pays devienne le foyer du terrorisme, le foyer de la distribution mondiale de la drogue. Ceci étant, ça veut dire au gouvernement taliban qui est à mettre en place, organisez-vous, avancez votre programme, organisez-vous comme vous voulez, suivant votre législation, mais il y a des choses que vous ne vous laissera pas faire. Et puis on est là, c'est le terrorisme exporté et la drogue exportée. C'est à peu près le même discours que tient du côté à la Russie. C'est ce qui explique d'ailleurs que, alors vous auriez eu peut-être des motifs d'étonnement chez vous en écoutant les informations, qu'il y a eu des annonces en disant, ah ben finalement, on parlait des talibans, ça a l'air un peu moins inquiétant que ça ne pouvait être, vous allez dire, mardi dernier. Il y a d'une part un effet de langage. Pour l'instant, on n'est pas au pouvoir. Ils ont bien insisté sur le fait qu'ils ne déclareraient la prise de pouvoir que le 1er septembre, quand tous les soldats des États-Unis et les mercenaires contractuels seront partis. C'est tout à fait clair. Quand on sera vraiment chez nous, ceci étant, il n'y a qu'à moitié une surprise, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le taliban de base que vous avez vu circuler sur sa mobylette dans le de Kaboul la semaine dernière, mais entre-temps, il est arrivé le patron des Mollahs. Le patron des Mollahs, M. Barada, est arrivé par avion, il n'a pas atterri à Kaboul, il a atterri à Kaboul depuis le confinement par la route. M. le Mollah, Barada, qui a succédé au Mollah Omar, qui est mort, monsieur est venu du Qatar où il réside. Pas un paysan de la campagne, c'est un monsieur qui habite au Qatar, et c'est le monsieur qui a conduit, à la fin de 1979, aux accords de 1939, des négociations avec l'administration Trump pour quitter toute l'Afghanistan. Donc, ce n'est pas un fou furieux qui arrive avec son confinement. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est un monsieur qui s'exprime, qui pose les rapports de force, qui sait ce que c'est que négocier avec la puissance, qui sait aussi, parce qu'il a été reçu à Tianjin, un grand port chinois, il y a de ça un mois, ce que c'est que de négocier avec la Chine. Il sait aussi, parce qu'il a été reçu à Moscou en juillet, ce que c'est que de négocier avec la Chine. C'est pas un aventurier, c'est un monsieur qui est arrivé au pouvoir, ça y est. Le pays est à notre disposition, à nous de savoir y rester. C'est pas, parce qu'ils ont compris, de 96 à 2000, ça a été très court. Et ils ont demandé que ça ne recommence pas. Donc il y a un personnel, alors je le cite lui parce que son nom va apparaître, il y en a quelques autres du même acabit. Donc c'est pas du tout le terroriste, c'est-à-dire un maquisard de la campagne, qui rêve de ses frères. C'est pas du tout ça. C'est un personnel politique complètement différent. C'est habitué à des rapports avec les grands puissants, des négociations. C'est donc ça qu'il faut qu'on comprenne. Et donc les annonces, alors on peut dire, les annonces qu'ils font en disant non, mais les petites filles, donc pour continuer à l'école, il n'y a pas de souci. C'est des annonces un peu opportunistes, mais en même temps, ils savent que s'ils disent le contraire, tout devient très très compliqué pour eux, y compris les futurs investissements, les relations avec les pays extérieurs, c'est lourd malgré tout, parce que désormais, les États-Unis n'étant théoriquement plus là, ils sont beaucoup plus dépendants des voisins géographiques concrets. Donc aucun n'est disposé à les laisser faire n'importe quoi. C'est ça le nouveau. Les États-Unis disaient, je mets mon chef à moi, et vous me laissez, ça n'a pas marché. Et là maintenant, aucun des pays, c'est pour ça que j'en ai fait un tour, que ce soit l'Iran, que ce soit les Tadjiks, que ce soit le Pakistan, et la Russie, la Rivière, aucun de ces pays n'est destiné à les laisser faire n'importe quoi. Avoir une influence négative sur la région. Et comme ils savent, ce qui est vrai aussi, que l'Afghanistan a besoin, parce qu'il y a 40 millions de personnes à nourrir de se développer, c'est justement négocier avec des efforts économiques et de pouvoir trouver un terrain de vie. Et des interlocuteurs du type de M. Barada, sont des gens qui comprennent ce langage-là. Parce que les négociations avec l'administration n'ont pas duré 8 jours, elles ont duré des semaines et des semaines. Donc on fait comme ça. On vend des arguments, on dit je suis, on parle des intérêts concrets, combien ça va coûter, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, etc. On pose dans les conditions politiques, c'est très simple. Tout ça a été vu et a été compris et intégré. Donc on a affaire à une nouvelle équipe de gens qui ne sont plus du tout les mêmes, on a même temps passé, donc dans l'histoire du monde, c'est qu'on ne retrouve jamais une situation identique de tant que ça, mais là ça a beaucoup, beaucoup évolué. Et j'en arrive à la question du Qatar, qui me buste, parce que pourquoi le Mollah était au Qatar? Alors vous savez que dans l'islam politique d'aujourd'hui, le Qatar a une position particulière. Je ne parle pas de football, parce que les autres le font beaucoup mieux que moi. Et donc, le Qatar a cette position politique très particulière que le Qatar est l'émirat des frères musulmans. Un exemple, je rappelle que quand il y a eu une grande fâcherie entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est M. Erdogan, qui est à tête d'un parti qui est venu envoyer des troupes pour bien faire comprendre à l'Arabie Saoudite qu'il n'était pas question de toucher au Qatar. Face à l'énorme Arabie Saoudite et ses 35 millions d'habitants. C'est ce qui s'est passé comme ça. Et je reste sur cette question des frères musulmans. Qu'est-ce que c'est que les frères musulmans ? Musulmans, c'est une bourgeoisie de pays musulmans majoritaires qui reste conservatrice et qui se défie à la fois de tout courant, j'allais dire laïcisant, reconnaissant que l'islam existe, mais sans être musulman, c'est donc qui pose un régime, mais qui veut le faire d'un mode oui, bourgeois conservateur. Qui explique donc que le chef actuel des talibans se soit installé au Qatar, donc une négociation avec l'administration Trump, ait eu lieu là, pas ailleurs. Ça explique aussi qu'ils ne sont pas allés en Arabie Saoudite parce que l'islam des talibans, ce n'est pas celui des Saoudiens, ce n'est pas celui non plus des Émirats arabes unis. Bien compris. Alors, cet islam-là, cet islam des frères musulmans, donc bourgeoisie traditionnelle conservatrice, très sectaire par ailleurs par rapport aux autres pratiques religieuses, elle se retrouve où ? Vous allez voir que ça a des incidences beaucoup plus lointaines qu'on ne l'imagine. Et parler du parti à café de M. Erdogan, justement, on a tout à fait une bourgeoisie conservatrice traditionnelle, typique des frères musulmans. Elle a voulu s'installer en Syrie et elle a raté son coup. C'est-à-dire que les frères musulmans syriens ont voulu tuer le père de Bachar al-Assad et l'ont raté. Et donc, depuis cette date-là, le gouvernement syrien, la population syrienne, d'une façon générale, se méfie énormément des frères musulmans, puisque la tentative des coups d'État s'est ratée. Alors, on a beaucoup parlé en Europe de la répression des frères musulmans après la tentative de coup d'État, mais on oublie, on gomme le fait qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Les frères musulmans sont arrivés, on le sait, à la suite de la chute de M. Moubarak au pouvoir en Égypte. Tous des manifestations de la place. Bon, et ils ne sont pas restés parce que le monsieur Morsi, donc arrivé à la du printemps arabe, s'est comporté de telle façon vis-à-vis du reste de la population, non frères musulmans, 10 millions de coptes chrétiens en Égypte et quelques autres, qu'il a été renversé ensuite par le général du président. Chacun pourra dire que c'est pas comme ça qu'on peut le pouvoir, c'est vrai, Al-Sisi a pu le voir par la force, mais il a surtout mis les frères musulmans à la porte. Donc, monsieur Morsi est allé en prison, où il est mort. C'était une tendance. Frères musulmans, c'est raté. Frères musulmans, surtout, ça marche. Et ça explique, par exemple, que M. Erdogan ait dit, quelques semaines, ah, mais si les Américains s'en vont, c'est tout le monde, attendez, nous, on pourra prendre la place. Et les talibans disent, non. On est chez nous, on fait nos affaires nous-mêmes. C'est même quand même une certaine réflexion sur l'arabe. Et puis je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous parler de la Tunisie. Alors je vais vous parler de la Tunisie parce qu'on a beaucoup parlé de la Tunisie ces dernières semaines en disant que le président avait donc mis en congé le Parlement, avait mis à la porte le Premier ministre et qui se mettait à gouverner tout seul. Autocratique. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est débarrassé d'une clique politique qui était organisée autour de l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui président du Parlement, M. Ghannouchi, et du parti Ennahda, qui est le parti des frères musulmans tunisiens. Et ce qui se passe, c'est que les actes autoritaires de ce monsieur, je ne cache pas leur caractère autoritaire, sont montés en épingle et sont montrés du doigt dans notre presse et sur nos médias. Effectivement, il a arrêté le système administratif qui fonctionnait. Je ne veux plus de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la population tunisienne est d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on considère que ce Parlement était pourri, que rien n'a été fait, qu'en particulier la gestion du Covid a été catastrophique par le gouvernement en question, qu'on meurt de faim aujourd'hui dans les Tunis, donc tout va très très mal. Et que donc, le coup de force, puis c'en est un, mais il n'a pas fait tirer dans la foule. Il a dit au président. Il a dit au Premier ministre au Parlement, maintenant restez chez vous parce que vous ne savez pas faire. Et donc la population est plutôt satisfaite de ce début-là. Effectivement, il était gouverné par des gens incompétents. Il les a fait taire, et c'est tant mieux. Il a fait taire, en l'occurrence, les frères musulmans, là aussi. Et donc tout ça redonne un panorama plus général. Alors, ce qu'on a appelé, il y a encore d'ailleurs, l'islam partout. Ce genre de comptabilité, quand on regarde à travers le cas afghan la réalité politique du monde, c'est du temps perdu, c'est pas sérieux. Il n'y a pas 1,5 milliard de musulmans qui pensent la même chose. D'abord, ils n'ont pas tous la même lecture du Coran, commençons par ça, mais je le dis d'autre façon, que chez les chrétiens, c'est pareil. Eux, et dans les juges, il y a des orthodoxes. Je ne rentre pas là-dedans, vous le savez. Donc, ceux qui ont voulu mythifier et nous faire peur à nous, opinions occidentales, c'est mon souffle, c'est pas du tout ça. Regardez la réalité sur laquelle je vous dis, le Pakistan, c'est 200 millions de musulmans, en Iran, c'est 80 millions de musulmans, c'est pas la même chose que le Pakistan. Au Tadjikistan, il y a une majorité de musulmans, en Afghanistan aussi. Mais où est l'accord? Je ne parle même pas des Indonésiens qui sont sur leur île avec les Américains à eux. Donc, on est en train, et ça c'est très intéressant, de la suite de cette clarification de la situation de remettre un jour cette espèce de tension politique formelle qui a servi à nous épouvanter depuis longtemps. C'est ça la guerre contre le terrorisme. Il a fait bouche pour cette annonce. Il a dit, je déclare la guerre contre le terrorisme, et comme par hasard, c'était que le des mouvements qui étaient les nous a mis dans cette espèce de serein stupide, là, le mal dans le monde, c'est l'islam. C'est totalement fou. Et donc, c'est ça que le cas afghan est en train de clarifier. Et chacun, alors il y a des musulmans, des futurs, dans différentes pays, avec des constitutions différentes. Il y en a qui veulent faire la mort, il y en a qui sont très nombreux, comme les Égyptiens, etc. Il y a tout ça qui joue. Il y en a, il y a aussi des musulmans au Mali, au Niger et tout. Et tout ça n'est pas une unité, mais ça bloque avec les intérêts. Population. En général, les populations sont liées à un retard de développement, c'est clair. C'est peut-être la seule chose qui peut rassembler tous ces pays. Il y a pas, alors, il y a des exceptions, puisque formellement, on a au moins des chiffres en moyenne, les habitants des Émirats arabes unis ne sont pas pauvres. Ce qui ne veut rien dire, en fait. Hein, parce que ça fait un monde concentré au sommet de la politique sociale, ça n'a pas beaucoup de sens. On sait qu'il y a aussi de la misère en Arabie saoudite, malgré la richesse de la communauté. On parle aussi de ces familles religieuses qui gouvernent en islam et qui ont une commisération pour les musulmans. Donc ce que je suis en train de vous dire, et je pèse mes mots, c'est que cette clarification est en cours sur la question afghane pour éviter, et il faut sortir mentalement de la guerre contre le terrorisme. A dit c'est permanent, on ne sait pas quand on va être. Il a dit quelque chose qui nous a tous impactés parce que nos gouvernements, qui évidemment se sont lancés là-dedans, disant il a suffi qu'on ouvre un livre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était bien vu, le mal venait de là. On n'a pas expliqué, ça sera expliqué. Alors on le sait déjà, qui a organisé les attentats du Bataclan, on sait que ce n'est pas les musulmans. On sait très précisément d'où c'est venu. Hein, du genre de la diplomatie française, évidemment, des services secrets. Et ça, alors, ça on le dit pas, on oublie. Hein, et on ne peut pas oublier, c'est ça la réalité. Ce n'est pas seulement des gens énervés qui mettent des bombes. Il y a des gens, des services secrets, il y a des financements. Les frères musulmans, ils ont subi un échec, je vous l'ai dit, en Syrie, et ça continue. C'est tout à fait clair. Et donc, c'est ça que je voulais remettre en question. Puis je voulais revenir sur le passé soviétique de l'Afghanistan. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est pas de revenir sur le soviétisme, puisque nous n'en sommes plus. Et qu'est-ce qui s'est passé avant l'arrivée des troupes soviétiques en 1970? On a tendance à réduire l'intervention soviétique à l'arrivée des blindés et des barrages. C'était pas ça. Il y avait un gouvernement, d'abord un gouvernement qui était celui de Vladimir, qui ensuite celui d'un président de tendance communiste élu, qui voulait un programme de développement pour l'Afghanistan. Et il y avait donc une aide de l'URSS à ce gouvernement. Le gouvernement Vladimir et ensuite le gouvernement communiste. Ça consistait à faire effectivement des routes, des fleurs, des choses comme ça, construire une infrastructure dans ce pays, pour faire ce que les avantages des routes de circulation. Les soviétiques ne sont venus que parce que le gouvernement ami de Babrak Karmal s'est trouvé aux prises avec Moudjahidine, donc les combattants de la liberté, comme vous en disiez, et que le gouvernement a fait appel, le gouvernement de Kaboul a fait appel au soviétique en disant on me veut du mal, ce qui est tout à fait vrai. C'est exactement plus tard la même situation que Bachar el-Assad demandant à la Russie, qui est un ami, de venir nous aider parce qu'il nous donne du mal et il mette d'énormes moyens contre nous, avec le même genre de terrorisme. Ça fait la même réponse. Bon, voilà. Et oui, et donc les soviétiques sont venus parce que le gouvernement de Kaboul leur a demandé de venir. Ils n'ont pas envahi l'Afghanistan contre le gouvernement afghan. Pas dans le cadre de rapports tendant donc à l'établissement d'un programme de développement qui était commencé. Il reste encore aujourd'hui, il faut savoir que s'il y a de l'électricité à Kaboul, c'est parce qu'il y a un barrage pas très loin de Kaboul qui marche. C'est pas un barrage soviétique. Hein. S'il y a des choses comme ça, bon, c'est des choses qu'il faut rappeler. Et les Soviétiques n'ont pas fait ce barrage parce qu'ils occupent, et ils l'ont fait avant. Ce barrage est toujours là. Ils ont été un peu abîmés, puis réparés, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a de l'électricité à Kaboul. Il faut le dire. Ce qui se passe après, c'est qu'effectivement, donc, tombe malgré tout, parce que la pression du combattant de la liberté comme il y a autrefois, il y a quand même un gouvernement qui va continuer, un gouvernement progressiste, celui de Mohamed Najibullah, qui va continuer, donc de 89 à 93, c'est-à-dire que les soldats soviétiques quittent en 89, ils sont partout. Après, encore un an ou deux, il y a un peu d'aide soviétique qui arrive, mais presque plus. Et donc il y a un moment où le gouvernement de Najibullah se trouve tout seul, sans rien, avec juste son programme de modernisation, il va continuer. Il va continuer. Mais il sait que la pression talibane est très très forte, qu'il est obligé de se réfugier dans les locaux de l'ONU à Kaboul. Et quand il en sortira, il sera en train de torturer, je vous l'ai dit, traîné dans la rue derrière les camions, entendu d'un mec de gaz. C'est ça la fin d'un régime progressiste en Afghanistan. Et ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des gens, des citoyens afghans, des citoyennes afghans, qui considéraient que c'était par là qu'il fallait aller. Et ces gens-là, ils ne sont pas tous morts. Pas tous morts. Alors, ils ont, les talibans sont là, on fait avec, on va arrêter peut-être de s'entretuer entre Afghans, ça serait pas plus mal, mais il faudrait quand même que notre pays sorte de l'arrogation. On avait ouvert la voie, c'était un début, on y était presque. Et puis, Bush, la guerre contre le terrorisme, nous a privés de ce genre d'avenir-là. C'est le moment de s'y remettre. C'est ça la leçon que je voulais tirer devant vous, parce qu'il y a un avenir pour les Afghans, les Afghans. Un avenir comme dans tous les pays développés qui doit se faire chez eux et pas en allant chercher fortune n'importe où à des endroits où ils sont plus ou moins bien acceptés, et surtout ne pas se cantonner à un métier stupide que celui de terroriste. Alors ça paye un certain temps, mais on en meurt assez jeune et donc ça vaut pas le coup. Il vaut mieux s'occuper de son pays, de sa nation et de faire progresser. C'est ça le souhait que je forme devant vous. Et je vous remercie de votre attention et je remercie Yamine.